Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral avec Jean Darrow dans son émission Les livres ont la parole, une émission qui a lieu chaque mois, en général le deuxième mercredi du mois. C'est la reprise aujourd'hui, après la période estivale. Bonjour Jean.
Bonjour, et aujourd'hui pour parler de livres, on reçoit une revue qui est représentée par un des membres du comité de rédaction qui est Jean-Claude Barbier. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Jean.
C'est pas un livre, c'est une revue qui paraît régulièrement et dont on va parler. Alors, c'est la revue Verdon. Verdon, Jean-Claude, c'est une revue qui est assez ancienne et qui est connue plutôt pas mal dans cette région, qui parle de plein de choses. Elle est née quand, cette revue ?
Elle est née en 1999, donc ça fait maintenant 16 ans qu'elle existe. Et on a publié, en fait, à raison de 3 numéros par an, pratiquement plus de 5000 pages. 5000 pages sur la Haute-Provence au sens élargi de Digne à Draguignan.
D'accord. Mais élargi aussi parfois à l'extérieur. Vous n'êtes pas enfermé uniquement sur cette région. Il y a des moments où vous sortez pour avoir un peu les effets miroirs d'autres endroits.
Tout à fait, oui. L'idée, ce n'est pas du tout de se replier, mais c'est de parler d'ici et de parler du monde. En même temps, quand on choisit les sujets, on essaye de choisir des sujets qui vont traiter aussi de thèmes universels, de thèmes qui concernent tout le monde, la ruralité, l'eau, le pastoralisme, l'avenir, etc. Donc on les traite ici en essayant d'inviter chacun à réfléchir dans son propre pays sur comment ça se passe, le thème qui est traité et les choses qui sont évoquées.
D'accord. Et alors, cette revue, elle est née pourquoi ? Quelle était l'idée ? C'était de parler du pays et d'ailleurs ?
Oui, l'idée, c'était de combler un manque en quelque sorte. Parce que quand on regarde sur les cartes, il y a la Côte d'Azur, il y a les stations de ski alpine, il y a les pays de Fort-Calquier, Vaucluse, Luberon, etc. Et puis, on trouvait que les pays du Verdon, au sens large, donc puisque notre revue, elle est plurielle, elle a un pluriel, on écrit Verdon avec un S, oui, pour parler de cette diversité des pays du Verdon. Donc, on trouvait qu'il y avait une espèce de tache blanche sur la carte et dans le monde culturel et littéraire qui représentait justement cette Provence intérieure qu'on trouvait un peu oubliée. Donc l'idée, ça a été de combler ce manque et de faire quelque chose, donc une revue qui donne la parole aux gens et qui parle de ce pays de Haute-Provence élargi.
D'accord. Mais c'est une revue aussi qui est née au sein d'une association qui est Pays et Gens du Verdon,
voilà,
si je me souviens bien.
Voilà, c'est ça, l'association Pays et Gens du Verdon, donc... était né donc d'un regroupement d'instituteurs qui avait l'intention de faire des animations, de faire connaître la culture provençale, de remettre en valeur des chemins, de faire aussi des classes de découverte. Donc de cette association, après est née l'idée de pérenniser tous les travaux qui se faisaient avec l'idée de concrétiser ça dans une revue.
Verdon avec un S, donc il y a cette idée de pluriel, d'universel, ce S à la fin de Verdon.
Voilà, de pluralité, de diversité, parce que le Verdon, bon, c'est le centre, c'est un peu notre cordon ombilical. Il y a les deux rives du Verdon, donc le Var et la Haute-Provence. Il y a le Haut-Verdon et le Bas-Verdon, qui sont des mondes très différents, un monde alpin et un monde beaucoup plus méditerranéen du côté de Gréoux. Et du Bas-Verdon. Donc c'est cette diversité-là dont on veut parler.
D'accord. Alors, 3 numéros par an, c'est du travail quand même. 3 numéros par an.
Oui.
Non, mais je veux dire, c'est du travail qui est organisé comment ? Il y a un comité de rédaction, on fait appel à des gens qui écrivent à l'extérieur du comité de rédaction. Comment ça se passe en fait ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un travail énorme, oui, effectivement, parce que la revue... qui n'est pas un magazine, souvent les gens, quand on dit revue, ne savent pas trop ce que c'est, ils croient que c'est un magazine comme Femina ou comme Femme Actuelle, voilà, le magazine Femina ou Paris Match. Non, ça n'a rien à voir, c'est une revue au sens, ça va être un peu prétentieux, ça, mais de dire qu'il se rattache plus à, en termes de revue, à une revue comme, je sais pas, la revue des deux mondes,
oui,
ou Esprit, ou je ne sais quoi. Donc, c'est un livret, ça se présente sous forme d'un livret de 120 pages, couleur, couverture cartonnée, c'est un vrai petit livre.
Oui, c'est un vrai petit livre. J'en ai en main, je ne peux pas le montrer à la radio, mais c'est un vrai livre. Mais c'est...
Voilà, ouais. Comme nous disent les gens, parce que je dis ça parce qu'on dit revue, donc ils disent mais c'est un livre. Oui, c'est un vrai petit livre pour nous. Donc ce petit livre, on le bâtit avec effectivement un comité de rédaction, on est 9. C'est très riche parce que chaque numéro donne lieu à des questionnements, des débats. C'est un lieu déjà pour nous important de réflexion. Et c'est ce qui fait, je crois, l'intérêt aussi que chacun de ces 9 membres du comité de rédaction soit attaché et a envie de pérenniser cette revue. C'est que intellectuellement, c'est un lieu riche de débats.
C'est déjà un lieu de débat. Au départ, c'est un lieu de débat.
C'est un lieu de débat.
Il y a un débat pour choisir. Parce que chaque revue, chaque édition de la revue a un thème central.
Voilà.
Donc il y a déjà débat pour savoir quel thème on va choisir.
Voilà, pour choisir le thème.
Où est-ce que vous avez les thèmes en avance ?
Oui, on travaille en gros avec une année à l'avance. On a déjà un peu une idée des thèmes de 2016.
Il y a débat à chaque fois pour dire on va choisir tel thème.
Mais il y a débat à chaque fois. On fonctionne très, très démocratiquement. Personne n'impose son point de vue. On échange, on argumente, on discute, on s'empoigne. Mm-hmm. C'est parfois assez vif, mais il y a un respect réciproque très fort parce que chacun a sa particularité et son apport. Donc on choisit le thème. Et puis après, il faut choisir. Une fois qu'on a choisi le thème, qu'est-ce qu'on va mettre dans le thème, évidemment. Et notre idée, c'est d'aborder les choses un peu en les problématisant. C'est-à-dire pas simplement prendre un thème, les musées, comme le prochain numéro, par exemple, qui va sortir pour la fin de l'année, mais à quoi servent les musées ? Quelle est la fonction d'un musée ? Comment naît, vit et meurt un musée ? Donc l'idée, c'est de toujours problématiser la question. Les sentiers, à quoi servent les sentiers ? Est-ce qu'ils ont toujours existé ? Est-ce qu'ils se sont perdus ? Est-ce qu'ils se sont retrouvés ? Est-ce que les sentiers d'aujourd'hui, on les fréquente comme les sentiers d'hier ? Est-ce qu'ils ont la même utilisation, etc. ? Donc, notre comité de rédaction, c'est vraiment un gangas cervelle, comme on pourrait dire en provençal, ou un brainstorming en français. Donc, c'est vraiment un lieu de débat et d'échange très riche pour formuler un petit peu plus précisément la problématique de notre numéro, du thème qu'on va choisir.
Oui, parce que je vois dans chaque numéro, il y a un bon paquet d'articles sur chaque thème. On creuse dans différentes directions un sujet. Voilà. Donc en l'abordant par plusieurs regards aussi, plusieurs points de vue.
Voilà. Alors pour diversifier les points de vue, parce qu'on tient à ce que notre vue ait plusieurs niveaux de lecture, plusieurs niveaux d'écriture et plusieurs niveaux de lecture. Donc les membres du comité de rédaction peuvent rédiger, pas forcément d'ailleurs. On n'est pas obligé de rédiger pour être au comité de rédaction, mais ils participent en allant chercher des auteurs, en disant « Tiens, sur tel sujet, je connais telle ou telle personne qui peut nous écrire des choses intéressantes. » Donc les auteurs sont largement mis à contribution à l'extérieur du comité
D'accord.
de rédaction.
Donc on va chercher dans le tissu local ou même plus lointain des contributeurs à la revue parce qu'ils ont une connaissance, une expertise ou je dirais un regard particulier sur le sujet.
Une approche qui nous intéresse, qu'on ne saura pas traiter nous-mêmes.
D'accord. Oui, donc c'est vraiment faire appel à un terroir.
Voilà. L'idée, c'est celle de l'ouverture. C'est pas une revue fermée avec un petit club fermé. On appelle même les gens à rédiger, à nous proposer des rédactions sur les thèmes.
Une revue qui a la forme d'un livre, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez important avec beaucoup d'intervenants. On disait qu'il y avait donc un comité d'action dont les membres n'étaient pas forcés d'écrire systématiquement.
Tout à fait, oui.
Mais au contraire, vous faisiez beaucoup appel à l'extérieur, à des gens qui ont, pour le thème choisi, des contributions qui vous paraissent pertinentes, quoi. Alors, c'est un travail de recherche. Vous faites un travail de recherche ou c'est plutôt comme ça, en disant, je connais un tel, ça lui conviendrait bien de parler de ce thème, ou vous êtes capable aussi d'aller au-devant en disant, il faudrait qu'on trouve quelqu'un pour parler de telle ou telle chose. Est-ce qu'il y a un travail de recherche ?
Oui, alors là, il y a les deux, quoi. Il y a les deux. À la fois, donc, des fois, on a des textes tout prêts, quoi, qui correspondent parce qu'on sait que les auteurs ont travaillé. Par exemple, dans le numéro sur chantier, chemin et drail, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, qui est sorti cet été. On savait bien que le thème de la transhumance intéressait, que Patrick Fabre, qui est directeur de la maison de la transhumance à Saint-Martin-de-Crau, enfin maintenant ils sont au domaine du Merle, donc qu'il avait un projet de créer un sentier de grande randonnée sur le thème de la transhumance qui va de Saint-Martin-de-Crau donc jusqu'à Ponte Bernardo, au-delà du col de l'Arche. Donc là, on savait qu'il avait des éléments prêts, bien sûr, pour nous parler de ce projet de GR qui va se réaliser en 2016. Donc on a des fois des gens, donc des contributeurs que l'on connaît par notre réseau, qui sont déjà prêts à rédiger ou qui ont déjà quelque chose de rédigé. Des fois, on va leur demander de rédiger, bien sûr, spécialement pour la revue. Et puis nous-mêmes, comité de rédaction, on se met au travail aussi pour travailler telle ou telle question. On se dit, tiens, tel sujet serait intéressant. Bon, l'un ou l'autre dit, moi, je le travaille ou je vais rencontrer quelqu'un, parce qu'on pratique beaucoup aussi les propos recueillis. L'idée étant de donner la parole aux gens du pays. Donc pas simplement les intellectuels, mais aussi toute personne
qui vit les choses,
qui vit les choses de près. Ça peut être un berger, un marcheur, un randonneur, ou sur le cinéma, quelqu'un qui réalise des choses dans le domaine du cinéma. Et à ce moment-là, donc, le membre du comité de rédaction va recueillir les propos. Et c'est quelque chose d'important aussi pour nous, cette question des propos recueillis. Je voudrais dire aussi, par rapport à la chanson qu'on vient d'entendre de Claude Marty, en occitan, qu'on tient, ça c'est, puisqu'on veut défendre la culture et l'identité provençale sous toutes ses formes, on tient à ce que dans chaque numéro, il y ait un article, un texte, en provençal. En provençal, on avait même fait un numéro spécial sur l'occitan, sur le ou le provençal et l'occitan, qu'on avait appelé Verdon Doc, où il y avait d'ailleurs un texte de Claude Marty qu'on vient
d'ailleurs
d'entendre.
Il était venu pour la, si je me souviens, il était venu pour la sortie du
tout
de
à
ce
fait
numéro-là.
Tout à fait, il était venu pour ce numéro. Donc pour nous, c'est important, c'est difficile des fois de trouver quelqu'un qui peut écrire en provençal et qui peut nous écrire un texte. Là aussi, ça peut être des entretiens, des histoires du pays qui sont racontées, mais c'est important. Ça, c'est on a comme ça dans notre cahier des charges l'idée qu'il y a un artiste, qu'il y a un texte en provençal. Ça fait partie des incontournables de chaque numéro.
Donc, il y a un artiste aussi. À chaque numéro, il y a un artiste qui peut être quoi, photographe, peintre, dessinateur
et voilà, tout à fait, oui. Chaque fois, il y a aussi, on tient à ce qu'il y ait un artiste, au moins, qui s'exprime ou à qui on donne la parole.
On lui demande de s'exprimer sur le thème ou c'est plus libre que ça?
C'est pas un petit peu par rapport au thème, mais ça peut être simplement sur son travail, parce qu'on trouve que son travail est en liaison avec le thème. Sur le numéro sur l'avenir, l'assuré demain.
Alors, le numéro et demain sur l'avenir, c'est celui qui vient de sortir, c'est le dernier.
Voilà, c'est le dernier numéro qui vient de sortir, le 47.
47, qui permet de dire qu'il y en a 47.
Voilà. donc, dans ce numéro, j'avais été interviewé pour les gens de Digne et du Pays d'Ignoir, Benoît de Souza, qui est bien connu et qui a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est un homme qui est très ouvert justement sur l'avenir, qui est polymorphe dans sa création artistique. Donc ça, on a fait un article sur lui avec des reproductions de ses œuvres.
D'accord. Très bien. Formidable. Et alors, je vois aussi dans le sommaire du dernier numéro que vous allez aussi au-devant d'acteurs du territoire. Par exemple, là, je vois, on regarde du parc naturel régional sur l'avenir du Verdon avec plusieurs membres du parc naturel régional à qui vous avez donné la parole.
Voilà.
Vous allez aussi voir les acteurs qui peuvent être plus institutionnels,
voilà,
à ce moment-là.
Tout à fait, oui, oui. Il n'y a pas d'ostracisme, on n'est pas fermé. Donc c'est les gens du pays, bien sûr, mais c'est aussi les acteurs institutionnels, bon, qui participent aussi à leur façon et à leur niveau au développement et à l'activation de la culture provençale.
D'accord. Et là, dans le cas présent et demain, ils peuvent avoir des choses intéressantes à dire sur comment ils voient l'avenir, eux, de leur côté. Ils travaillent, parce qu'ils font aussi un travail de construction.
Tout à fait.
Donc,
ils
vous ont sans doute appris des choses.
Oui, oui.
Enfin, ils apprennent aux lecteurs.
Oui, ils apprennent. Oui, oui. Oh, ben, on s'enrichit à chaque numéro. Oui.
D'accord. Et donc, alors, on disait tout à l'heure, il y a un travail de comité de rédaction. Donc on se met d'accord éventuellement pour plusieurs numéros de suite. Et ensuite, chacun repart de son côté. Donc il y a les moments de concentration où l'équipe est ensemble. Il y a le moment où chacun repart de son côté. Et après, on revient avec de la matière. Voilà. Et là, à ce moment-là, il y a encore un travail d'équipe. On peut refuser des contributions. Il peut y avoir des choses où on peut dire « Non, ça ne va pas. C'était pas ce qui était prévu. » Comment ça se passe quand je dirais la matière, les articles reviennent? Il y a un travail qui se passe de quelle façon?
Oui, presque. Ben, chaque article, en fait, on se réunit une fois par mois. Donc, d'ailleurs, à Moustier, au parc du Verdon, qui nous héberge toujours. Et ça, c'est bien parce que c'est un lieu central. Certains sont plutôt de la rive droite du Verdon, d'autres de la rive gauche. Donc,
d'autres d'en haut, d'autres d'en bas.
D'autres d'en haut, d'autres d'en bas. Donc, oui. Moustier est un bon point de rassemblement pour nous. Et on se retrouve sur les articles et on discute chaque article. Des fois, mot pour mot, presque. Oui, parce qu'il y a des choses, des fois, qui ne passent pas ou qui ne correspondent pas tout à fait à l'esprit. Des fois, il peut y avoir des allusions qui sont plus ou moins négatives ou des choses comme ça, ou qui peuvent heurter ou froisser des personnes ou des institutions. Donc, on n'a pas notre langue dans notre poche, mais on n'a pas envie d'agresser pour agresser.
La revue n'a pas une vocation polémique, de lever des lièvres, de faire des histoires, mettre les gens les uns contre les autres.
Au contraire, l'idée c'est de rassembler, bien sûr. Donc chaque article est pesé. Des fois, on trouve que c'est trop long, donc il faut tailler. Des fois, c'est trop court, il faut développer parce qu'il y a des choses qui sont trop allusives. Et on se dit aussi, il faut toujours que notre texte soit lisible pour le lecteur de Lyon, de Paris, de Tartempion.
Pour pas rester enfermé dans
le localisme. Et donc, s'il y a des choses trop locales aussi, des fois, on se dit non, c'est trop juste, c'est de la gazette locale, mais ça fait pas partie de l'esprit de la revue qui a une vision plus large. Ou bien s'il y a simplement des allusions à quelque chose de trop local, mais qui est intéressant, on va demander à l'auteur de développer un petit peu ce point de vue ou cette allusion pour que le lecteur de la BNF puisse comprendre, puisque nous avons aussi des abonnés à la BNF, ce qui nous fait plaisir.
Bibliothèque nationale de France.
Pour que le lecteur extérieur à la région puisse comprendre de quoi il s'agit.
Oui, surtout que si la vocation c'est de faire comprendre ce qui se passe dans ce pays où il n'y avait rien, tout blanc, comme vous disiez tout à l'heure, l'espèce de trou blanc sur justement l'expression, la culture, etc. Donc il faut être compréhensible par quelqu'un qui ne connaît pas la région de façon précise.
Tout à fait. Voilà. Et des fois, c'est un petit peu le danger donc de s'enfermer sur quelque chose d'un peu trop local. Et donc là, on réagit pour que ça ne se passe pas.
Donc ouvrir toujours. Et donc... Sinon, en termes de je dirais, il n'y a pas de censure, mais je veux dire, en termes de contrôle, il y a cette idée-là de pas choquer, de faire quelque chose qui soit abordable par tous en même temps.
L'idée, c'est... chaque article est subjectif, porte une subjectivité. Si on a un point de vue qui va nous paraître trop tranché dans un sens, on va demander un contre-point de vue pour que le lecteur puisse se faire justement sa religion, quoi, son opinion lui-même. D'accord. Donc l'idée, c'est de contrebalancer quand on voit quelque chose qui va trop dans un sens et qui nous paraît un peu excessif. On avait eu un article sur... un ancien ingénieur d'EDF qui faisait l'apologie des barrages, qui ont apporté beaucoup de choses, les barrages sur le Verdon, mais enfin, qui ont apporté aussi, qui ont noyé des villages, qui ont noyé qui ont été le cimetière de beaucoup d'émotions et de vies minuscules. Donc, on a contrebalancé cet article-là par d'autres articles pour... donner la parole aussi à ceux qui avaient été noyés par les barrages.
D'accord. Donc toujours essayer d'avoir une espèce de notion d'équilibre dans l'expression. Bon, c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un, même s'il est tranché, mais de l'équilibrer le plus possible.
Oui, oui.
Donc c'est vraiment un document aussi qui participe à la réflexion, voilà, qui permet à chacun de se faire sa religion, comme
voilà.
Vous dites.
Voilà, c'est ça, oui. L'idée, c'est vraiment d'alimenter la réflexion par la diversité des points de vue. Je pense sur un point très précis qui fait polémique actuelle, c'est la question du loup. On avait fait un numéro sur les animaux, plumes, poils, etc. On l'avait appelé et on avait eu un article donc sur le loup. On avait appelé le loup des uns, le loup des autres, en montrant les différents points de vue, les différents arguments autour du loup. Mais en même temps, on donnait la parole à des bergers qui exprimaient leur souffrance, parce que c'est eux dans le pays qui vivent le plus terriblement ce retour du loup.
D'accord. On écoute encore un petit peu de musique, alors.
Né bien la vale, né bien montagna.
En la campagna non y a plus.
Donc on est bien sur Fréquence Mistral pour l'émission Les Livres ont la parole avec Jean-Claude Barbier qui représente la revue Verdon avec un S. Voilà. Donc on parlait on a dit déjà beaucoup de choses sur la revue et c'est une revue, donc il y a 47 numéros, ce qui fait une assez grande vitalité, une longueur de vie et par contre c'est des numéros qui à chaque fois ont un thème, chaque numéro a un thème central. Qu'est-ce qu'on peut, alors, qu'est-ce qu'il y a comme thème, est-ce qu'on peut citer un petit peu, il y a beaucoup de choses, qu'est-ce qu'il y a comme thème? On peut donner des exemples de diversité.
Oui, c'est très varié, effectivement. Si on remonte un petit peu, donc le numéro précédent de l'été, je l'évoquais tout à l'heure, c'était sur Sentier, Chemin et Drail. Oui. On avait aussi abordé un petit peu ce thème déjà sur les voies de communication. On avait fait un numéro sur qu'on avait appelé Traversade. Mm-hmm. Le numéro avant, donc, du mois de décembre, portait sur le cinéma. Le cinéma en Provence. À quoi sert la Provence dans le cinéma ? Mm-hmm. En gros, c'était un peu ça la question. Est-ce que la Provence, c'est juste un décor pour le cinéma, ou est-ce qu'on trouve, sans parler d'un cinéma provençal, est-ce qu'on trouve quelque chose de provençal, de l'identité des gens d'ici, d'aujourd'hui, dans le cinéma ? Mm-hmm. Donc là, on a été un petit peu à la pêche. On a trouvé des gens qui font des documentaires aussi intéressants, qui ne sont pas très connus, mais sur la Haute-Provence, et qui montrent autre chose que les éternels clichés et stéréotypes. Mm-hmm.
On a parlé de l'Occitan tout à l'heure.
On était revenu un petit peu aussi à nos fondamentaux, parce que des fois les gens nous disaient « Ah, mais vous éloignez peut-être un peu trop du Verdon des fois dans vos thèmes ». Donc on avait repris un numéro sur le thème des lacs et rivières. Mm-hmm. Donc là, on s'était bien recentré.
Oui, c'est très marquant du Verdon.
On s'était bien recentré sur le Verdon en posant déjà toute la problématique de l'eau. Qui est de plus en plus importante, quoi, qui est vraiment un thème universel par excellence. Mmh. Alors, on était en 2014, on était dans l'année du centenaire, donc on s'est aussi quand même interrogé. On ne se raccroche pas à l'actualité spécialement et aux commémorations, mais on en a profité pour se demander, donc en 2014, qu'est-ce qui reste, quelles sont les traces de la guerre, que la guerre de 14-18 a laissées en Provence. Mmh, mmh. Donc là aussi, on a eu un numéro qu'on a appelé Trace, 14-18 Trace, pour s'interroger sur justement, même sur le pays, comment il avait vécu la guerre, qu'est-ce qu'il en restait, qu'est-ce qui avait touché le pays, même si ça n'avait pas été un lieu de combat et d'affrontement. Mmh. Voilà. Lorsqu'on a eu 2013, Marseille, capitale culturelle, là, on a nos numéros sortent, vous voyez, toujours d'une réflexion et d'une interrogation, parfois sur l'actualité, parfois sur des thèmes de fond. Marseille, capitale culturelle, on voyait que Marseille se tournait beaucoup sur la Méditerranée et son ouverture sur le monde méditerranéen. Mais on s'est dit, Marseille aussi a été fait par les Provençaux, par les Gaveaux particulier, qui ont migré en masse pour aller faire les colporteurs, les portefaix, les porteurs, les portefaix, les nourrices pour les femmes, etc., pour les bourgeoises marseillaises. Donc on a absolument voulu rappeler à Marseille que Marseille avait aussi une identité au provençal. Donc on a fait un numéro qu'on avait appelé Les Gaveaux et Marseille, qui on a d'ailleurs été présenté à Marseille.
Mmh. À l'Alcazar. Parce qu'en particulier, ils boivent l'eau du Verdon. Et
ils boivent l'eau du Verdon, on le sait bien. Hein. Il n'y aurait pas de pastis bien valable sans les Gaveaux, sans l'eau des Gaveaux.
Donc voilà, c'est des thèmes très divers. Je vois là, je cite conflit aussi, ça peut être, on peut partir d'un mot comme ça, ou bien rue des Jardins, frontière. Voilà, ça peut être un mot qui déclenche. On a vu l'actualité, l'anniversaire, les centenaires de la guerre de 14. Ça peut être soit en référence à un anniversaire ou un événement du temps, mais ça peut être aussi un concept, un mot.
Voilà, tout à fait, oui. L'idée, c'était, on a fait conflit, on a fait vivre ensemble. Aussi, on s'est dit, tiens, ça fait partie de la vie en société, quoi. Hein. Donc, on pourrait analyser les éléments de conflit qui existent et qui ont existé dans la société provençale. Donc, ça a été un thème. On en a fait un autre pour contrebalancer aussi sur le thème des du vivre ensemble, des fêtes, des repas, de la convivialité, etc.
D'accord. Oui, ben, en ce moment-là, vous parliez de tous ces gaveaux qui ont migré vers Marseille. Ça pourrait être aussi un thème, la migration, parce que c'est un pays aussi de migration.
Tout à fait, oui.
Voilà, c'est un sujet dont on parle actuellement partout, sur tous les médias, vu les migrants qui viennent de l'extérieur, mais aussi toutes ces migrations intérieures sur un territoire, ces gens qui ont changé. On parlait des lacs qui ont été faits pour alimenter en eau la Provence et pour faire de l'électricité. Il y a des gens qui ont été déplacés aussi par Canjvers, par le lac, par des choses comme ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, il y a aussi toutes ces migrations intérieures, ça pourrait être un thème. Enfin, je dis ça comme ça.
Oui, oui. Alors, on avait abordé le thème de la migration dans un numéro qu'on avait appelé « Parti d'ici, venu de loin ».
D'accord.
Donc là, mais on évoquait plutôt les migrations extérieures, les migrations italiennes, arméniennes, qui sont venues aussi faire la Provence. Quoi. Parce que bien sûr, la Provence a été une terre d'accueil, une terre d'échange. Et on est parti et on est venu. La Provence est un lieu de mouvement. Un lieu d'accueil, un lieu de départ, un lieu de mouvement.
D'accord.
Donc, sur les migrations intérieures, on l'a évoqué, on n'a pas fait un numéro, mais effectivement, ce mouvement en particulier, de cette hémorragie finalement du haut pays vers les pays à la fin du 19e siècle, quoi, qui étaient des bassins d'emploi, qui étaient en développement et qui avaient une crise de ruralité, la ruralité et une surpopulation dans les départements alpins. Donc ça, on l'a évoqué dans plusieurs numéros.
D'accord. Et donc, il y a des projets. Donc, on peut parler des futurs. Donc, on a parlé de à quoi servent les musées, qui est le prochain numéro.
Ça va
sortir. Mm-hmm. Alors, je voulais revenir aussi sur le numéro où on parlait de marché. Est-ce qu'on pourrait lire un petit extrait pour avoir un goût de ce qu'on trouve dans la revue, hein? Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'articles. Et en général... je sais pas, une trentaine d'articles différents par numéro au moins, non?
Oui.
C'est variable ça aussi ou en général vous faites des articles relativement courts? C'est pas ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'articles, donc ils sont pas massivement de 50 pages ou de sur une revue de 120 ou entre 120 et 130 pages.
Oui, c'est vrai qu'on tient à ce que nos articles, qui est, comme je disais tout à l'heure, plusieurs niveaux de lecture, donc il peut y avoir des articles plus fouillés, comme le texte de Mathieu Le Borgne, par exemple, sur l'avenir de la Provence. Il fait toute une analyse dans le numéro sur l'avenir, sur les effets d'ITER comparés aux effets de l'installation de Cadarache. C'est-à-dire, à partir de ce qui s'est passé quand Cadarache s'est installé, il essaye de faire une projection sur ce qui risque de se passer avec ITER à la puissance 10, voire à la puissance 100.
Mathieu Le Borgne est un sociologue.
Le Borgne est un sociologue. Il nous demande un peu plus d'espace pour s'exprimer. On a jugé que son texte méritait d'avoir plus d'espace. Donc là, ça peut être un article un peu plus long, un peu plus théorique, mais qui a un contenu très, très fort et très intéressant. Mais on tient aussi à ce qu'il y ait des textes plus légers, plus courts, plus simples.
Il n'y a jamais un article, un texte qui prend une majorité de la revue.
Non.
Voilà, c'est pas un livre.
C'est polyphonique.
Voilà, d'accord.
C'est la polyphonie provençale.
D'accord. Donc alors, on parlait du numéro sur les chemins et donc le numéro s'appelle déjà comment?
Sentier, chemin et drail.
D'accord. Et on en lit un petit peu. Voilà.
Alors, c'est un texte qui est d'Edmond Pierazzi, qui est fait libre et marcheur à Gréoux-les-Bains, qui nous a donné un texte en provençal et qui évoque aussi la couverture du numéro. J'avais trouvé en marchant entre Saint-Martin-de-Brome et Gréoux-les-Bains quelque chose qui m'avait beaucoup amusé. C'était un siège et au-dessus il y avait un panneau. En plus des panneaux indicateurs, donc des destinations, il y avait un panneau où il y avait marqué siège du marchand de nuages.
D'accord.
Ça m'avait beaucoup plu, cette idée poétique d'installer ici un siège pour que le promeneur puisse contempler les nuages. Et donc, il s'est trouvé que, un peu par hasard, Edmond Pierazzi nous a aussi fourni un texte où lui aussi avait été frappé par ce siège du marchand de nuages. Donc, il a fait un texte sympathique, je ne vais pas le lire en provençal, mais en français, sur le marchand de nuages. Au croisement de deux sentiers de randonnée, au pied de deux poteaux indicateurs, on peut voir un siège, bien rembourré, qui intrigue fort les marcheurs. Certes, en cet endroit plutôt désert, c'est une présence plus qu'insolite. Pas encore une chaise en fer, mais un fauteuil en ce beau site. Mais qu'est-ce donc que ce vieux siège et pourquoi est-il à cet endroit? C'est là la question piège. Je m'en vais vous dire pourquoi. Un pauvre fada du grand plateau, ne sachant plus comment survivre, eut l'idée d'installer, ici c'est très tôt, vous allez rire à ce qui va suivre. Au risque de passer pour un couillon, ce sage avait trouvé cette solution de s'installer dans ce beau paysage où les nuages jouent avec les moutons. Ayant bien rangé devant lui ses bocaux, des grands, des petits, des moyens, des gros, récupérés à la décharge de Saint-Martin, il avait mis dedans de la sauge et du lavandin, et aux passants étonnés de le voir assis, impassible, sous le grand soleil ou le mistral, qui lui demandait « Que fais-tu là ?»« Je vends des nuages. »«
Je vends des nuages. » Oui, c'est beau. Eh bien, on va digérer ce texte en écoutant un peu de musique.
La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì.
Sotto l'acqua che cadeva a rovescio, grandinavano le palle nemiche, su quei monti, colline, gran valli, si moriva dicendo così. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. O vigliacchi che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore, questa terra di giada e confini, qui si muore gridando assassini, maledetti sarete.
Cara moglie, tu non mi senti. Raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini.
Che io muoio col suo nome.
Io muoio sul nome nel cuore.
O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu.
Donc on est toujours sur Fréquence Mistral et on retrouve notre émission Les Livres ont la Parole avec notre invité qui est Jean-Claude Barbier et qui vient de nous parler de la revue dans laquelle il est membre du comité de rédaction et qui s'appelle Verdon et qui parle d'ici et d'ailleurs de cette région. Et... Alors il y a aussi des tirs à part, des numéros spéciaux. Alors chaque numéro est spécial parce qu'on a un thème central sur lequel vous approfondissez beaucoup de choses en ayant des regards multiples. Et il y a aussi ce que vous appelez des numéros spéciaux. C'est quoi la différence? Parce qu'il y a un seul thème aussi, mais...
Oui, oui. En fait, ils procèdent un peu d'une autre genèse, ces numéros spéciaux. Il y en a eu un sur Isidore Blanc, par exemple sous-titré Le régisseur des gorges. Alors, en fait, ces numéros spéciaux sont réalisés par une seule personne, souvent, à leur initiative, mais avec l'accord de l'association et du comité de rédaction, parce qu'ils correspondent à notre démarche et aux valeurs qu'on veut défendre. Alors, par exemple, le numéro sur Isidore Blanc, qui était l'instituteur à Rougon, et qui est l'initiateur, en fait, de la découverte, entre guillemets, des gorges du Verdon par Édouard Martel.
Oui.
On appelle le sentier d'ailleurs Martel, on l'appelle maintenant, on l'a fait, et on a beaucoup contribué à cette nouvelle dénomination. On l'a fait appeler sentier Blanc-Martel, parce que c'est pour réhabiliter le travail d'Isidore Blanc, c'est lui qui a été chercher Martel pour que Martel vienne explorer les gorges du Verdon. C'est en quelque sorte à son initiative,
oui,
quoi,
oui,
que s'est fait cette exploration des gorges. Et on tient beaucoup à réhabiliter justement les acteurs.
À rendre à César ce qui est à César.
À rendre à César.
Voilà. À Isidore, le Verdon.
Voilà, et à rendre à Isidore,
oui, parce
le Verdon.
Que Martel, c'était bon, un spécialiste de la spéléo, etc. Bon, il allait un peu partout.
Oui, partout.
Et puis, il découvrait un coin, et puis après, il disparaissait, il ne revenait plus jamais. Enfin, c'était...
Voilà.
Tandis qu'Isidore Blanc était instituteur.
Voilà, il est resté ici. Après, c'est lui, il a été membre, je ne sais pas s'il n'a pas été président du Touring Club aussi de France, c'est-à-dire qu'il a géré en quelque sorte le développement des gorges du Verdon après leur, entre guillemets toujours, découverte, parce que les gens du pays, ils connaissaient déjà bien ces gorges du Verdon, puisqu'ils allaient y chercher du buis, ils allaient y chercher pour faire des boules en bois. Donc ces gens connaissaient le Verdon et connaissaient les gorges.
Donc on a donc Isidore Blanc, il y a un autre numéro spécial.
Alors il y a un autre numéro spécial sur 1851, en particulier à Aups.
Oui.
Donc j'ai pas dit, celui d'Isidore Blanc, il a été fait par Jacques Le Cugy de Moustier. Mmh. Et le numéro sur 1851 a été fait par André Inaudi, qui est le directeur de la publication, donc est membre du comité de rédaction. Alors l'idée, c'est de faire une sorte de visite guidée de Hobbes autour du thème de 1851.
Avec donc, les lieux où il y a eu un certain nombre d'événements.
Voilà, les lieux de mémoire, donc faire revivre ces lieux de mémoire au moment de cette révolte donc des Hauts-Provençaux et des Bas-Alpins contre le coup d'État de Napoléon III.
Oui, d'accord. Bon, donc donc deux numéros spéciaux, c'est vraiment comme ça l'initiative de quelqu'un qui domine un sujet, qui est passionné par un sujet. Voilà, ça vient en plus.
Ça vient en plus, voilà, et on en a un prochain qui va se porter sur la toponymie de Robion, du secteur de Robion, qui a été réalisé donc par une Irène Magnodex, qui se consacre à la toponymie des... Et puis Francis Martel également, c'est un peu à son initiative. Donc, et c'est lié à un sentier de découverte. C'est donc aussi un fascicule qui va être lié à la découverte. C'est original. Mm-hmm. C'est original parce qu'on a des sentiers botaniques, des sentiers géologiques, ceci, cela. Et l'idée de parler des noms de lieux et d'expliquer ces noms de lieux. Donc ça sera intéressant pour les gens qui vont visiter, bien sûr, ce sentier. Mais ça sera, c'est intéressant pour tout le monde parce qu'il y a des noms de lieux qu'on trouve un peu partout. La Blache, etc., qui sont des lieux plantés de chênes. Bon, c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout. Donc connaître une toponymie d'ici permettra de connaître la toponymie de chez soi. Quoi,
oui, hein. Oui, parce que souvent les noms reviennent.
Les noms
reviennent. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les gens essayent de retrouver des racines à partir de leur langue qui est le français, alors que souvent, c'est des mots qui ont une origine occitane.
Bien
quoi.
Sûr.
Donc, ils essayent de faire des assimilations, ils ne comprennent pas du tout.
Oui, oui.
Voilà. Ils disent ça, ça vient peut-être de ça, mais en fait, non. Ça...
Oui, oui, souvent, il faut revenir au provençal, voilà, et revenir au latin, même, pour comprendre le nom des lieux.
Alors, cette revue, donc 47, bientôt 48 numéros, avec des projets qui continuent, de façon 3 numéros par an... Il n'y a aucune raison de s'arrêter. Le comité de rédaction, donc il y a 9 membres. Et c'est un comité de rédaction qui est ancien. Il y a un renouvellement. Il y a du sang jeune qui arrive.
Oui,
c'est difficile.
Oui, c'est difficile, effectivement. C'est le problème du renouvellement. C'est vrai que notre comité de rédaction, bon, eh ben, il vieillit, hein, puisqu'on existe depuis 16 ans.
Oui.
Donc, on prend tous de l'âge. Mmh. Et on essaye de trouver des nouveaux membres, effectivement. Donc, on a récemment accueilli Jean Abès, justement, qui est, qui est un peu plus jeune et qui est venu enrichir le comité de rédaction. Mmh. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ce comité de rédaction, il est fait par des enseignants, il est fait par... il y a un libraire, il y a un attaché culturel, il y a quelqu'un qui était dans le tourisme. Donc, c'est des gens qui viennent quand même de milieux relativement divers. Vous voyez, culture, tourisme, enseignement...
Chacun apporte son
chacun,
regard.
Voilà. Chacun apporte son regard, sa sensibilité, qui à l'esthétique, qui à la littérature, qui à la sociologie, qui à l'ethnologie, etc.
Alors, 9 membres, c'était un choix de dire on se limite à ça?
Non. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Faut pas être trop nombreux, bien sûr, oui. Parce qu'après les débats.
Oui, quand il y a débat pour se mettre d'accord.
ça complique les choses, mais non, ça va. C'est un bon lieu.
Est-ce qu'il arrive qu'on soit obligé de voter ou en général?
Oui. Ça nous arrive des fois. Oui, des fois.
Non, parce qu'on peut imaginer qu'il y a une espèce de consensus. On dit on parle de. Non, on vote des fois.
Ça nous arrive des fois de voter, pas tellement souvent, parce que des fois les gens se rangent aussi. Si on n'a pas d'opposition, il n'y a pas de raison de ne pas laisser faire, si ce n'est pas argumenté, tel ou tel sujet. Parce que des fois, on s'embarque sur un sujet sans trop savoir comment ça va marcher, ça va avancer. Et en fait, le numéro se construit au fur et à mesure, de façon très empirique. On ne sait pas la totalité des articles quand on lance le thème.
Oui.
On découvre en marchant. Oui. On apprend à faire du vélo en avançant. Et c'est exactement comme ça que fonctionne la revue.
Et est-ce qu'il arrive qu'un numéro échoue? C'est-à-dire on n'arrive pas au bout, on dit on le laisse de côté, on part sur un autre sujet. Ou on n'est pas mûr, on n'a pas tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il arrive qu'on déclasse un numéro en disant on le travaillera plus tard?
J'allais dire non, mais c'est arrivé une fois. On voulait faire un numéro sur la bande dessinée. Là, nous-mêmes, n'étant pas dessinateurs, aucun d'entre nous, sauf peut-être un, on ne pouvait pas tellement assurer donc quelque chose. On voulait qu'il y ait vraiment des bandes dessinées réalisées par des dessinateurs et des auteurs sur le pays, Donc, on en avait contacté quelques-uns et puis on n'a pas réussi à pouvoir étoffer suffisamment le numéro. Donc effectivement, c'est le seul cas où on a dû abandonner un thème.
Mais sinon, vous pouvez vous y prendre, si vous avez plusieurs thèmes d'avance, en fait, vous travaillez sur presque plus d'une année, alors
on a déjà sur 2016, on a déjà un peu idée de sur quoi on va travailler. On n'a pas encore arrêté l'ordre, mais il y a un thème, on voudrait faire donc un thème sur le manger, le fait de manger, la nourriture, tout ce qui tourne autour de la nourriture.
Il n'y avait pas déjà eu un sujet là-dessus?
Non, pas directement. Donc là
c'est le manger.
Voilà, ça va être très large, aussi bien les repas de fête, les repas quotidiens, la pièce, la cuisine en tant que pièce et comme lieu de convivialité, les instruments de cuisine, etc. Ce qu'on mangeait autrefois, y a-t-il une gastronomie provençale ou pas? Ou est-ce que c'est une invention de quelques restaurateurs pour aguicher le touriste? Et qu'est-ce qu'on mange, Qu'est-ce qu'on mangeait? Qu'est-ce qu'on mange encore aujourd'hui, etc. Donc ça va être certainement un thème de 2016. Il y aura aussi, on a envie de faire un, je dirais pour reprendre une expression qui existe déjà, mais un dictionnaire amoureux de la Haute-Provence. C'est-à-dire demander aux gens qui sont passionnés par le pays ce qui les a passionnés, ce qui les passionne, et que chacun écrive un texte sur son propre thème. Donc là, il n'y aurait pas un thème spécial, ça serait chaque auteur qui livre sa passion pour la Haute-Provence et les pays du Verdon. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu dans l'air, qui va probablement se concrétiser. Puis on voulait travailler aussi, on dit la Provence est un pays de lumière, on voulait travailler un peu sur cette thématique aussi, ombre et lumière. Le soleil, aujourd'hui.
Il y a le passage de nuages. Mais c'est agréable aussi, parce qu'il y a des jours quand c'est que soleil.
Voilà, ça peut être
ça
très lourd.
Oui, ça fait sécheresse aussi.
On l'a vu cet été, Donc l'ombre, la lumière, le soleil, l'obscurité, l'obscurantisme, etc., avec tout ce qui peut se développer à partir de cette thématique.
Oui, et même la notion des lumières, ce qu'on a appelé les lumières, de l'époque des lumières.
Oui,
Qu'est-ce que les lumières
ont atteint les fermes gavottes.
Oui, mais il y a peut-être eu aussi des gens qui ont apporté de la lumière dans ce territoire.
On a eu... Avant le siècle des Lumières, on a eu Gassendi, qui était quand même déjà lumineux.
Oui, puis même, j'allais dire, ce soulèvement, ne serait-ce que soulèvement républicain pour défendre les valeurs, je veux dire, ça fait partie aussi des Lumières. C'est qu'une population entière se soulève pour défendre des idées comme la République, c'est quand même pas anodin.
Oui, oui, tout à fait, bien sûr.
Il n'y a pas eu beaucoup d'endroits en France qui ont connu un tel soulèvement. Non. Bon, il y a des gens qui ont essayé, mais je veux dire, pas aussi fortement que dans cette région. Mmh. Donc voilà. Jean-Claude Barbier nous parle de la revue Verdon, dont il est membre du comité de rédaction. Alors justement, c'est vraiment une belle revue. On a dit que c'était un livre, c'est vrai qu'il y a 120 pages. C'est vraiment beau, les chouettes couvertures, aussi le papier.
Oui, on nous dit, et on essaye de s'y tenir à cette qualité, que cette revue est assez classe. Et c'est vrai qu'on y tient. Bon, il y a une couverture mate, couleur mate.
Oui, cartonnée, vraiment cartonnée, bien, quoi, qui
voilà,
se tient, oui.
À l'intérieur, donc il y a beaucoup d'illustrations aussi qui prennent de plus en plus de place. Parce qu'il faut presque des fois un peu limiter, mais c'est important, quoi, parce que c'est la lisibilité, c'est les goûts d'aujourd'hui, quoi. Hein. Donc de la couleur, du noir et blanc à l'intérieur, des illustrations, papier glacé aussi, et puis une mise en page assez aérée aussi pour que on puisse respirer et qu'on n'ait pas un sentiment d'oppression en rentrant dans la revue. Donc on tient à ce qu'il y ait cette dimension de qualité qu'on trouve donc dans l'aspect, comme on voudrait qu'il y ait une rigueur aussi dans les propos tenus.
Oui.
Parce qu'on fait aussi un travail de journaliste pour vérifier des informations, pour vérifier des dires. Et chaque fois que quelque chose nous paraît douteux, on va chercher les renseignements et vérifier. On tient à ce qu'il y ait ce côté rigueur.
La qualité de ce qui est dedans. Et vous essayez aussi de la servir par une belle mise en page.
Voilà, dans la forme et dans le fond. Voilà.
Et je fais remarquer aux futurs lecteurs que aussi la taille du caractère est suffisamment grosse, parce que souvent les gens disent « Oh, les revues, c'est écrit tout petit ». Mais là, pas du tout. Vous avez quand même un choix de taille de caractère qui est pour tous les vieux regards. Les jeunes aussi, je veux dire, c'est écrit relativement avec un caractère suffisamment grand.
Oui, voilà.
Et ça, c'est important. D'accord. Alors, cette revue, maintenant, on est tous convaincus. Où est-ce qu'on la trouve? Comment on fait? On peut s'abonner? On peut le trouver à certains endroits?
Oui, alors, donc on tire à 500 exemplaires. Il faut dire aussi qu'on est financé par le conseil régional, c'est important.
D'accord, une aide de la...
Le conseil départemental aussi du Var, et également le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence.
Donc c'est équilibré. Hein,
donc voilà, c'est équilibré. Mais c'est surtout la région qui nous apporte son soutien. Donc on continuera tant que la région nous soutiendra. On a des abonnés, on a 200 abonnés. Ouais. Et donc c'est surtout par l'abonnement en fait que la revue est diffusée. Donc il y a un service abonnement qui se trouve au MUI. On trouvera sur le site de Fréquence Mistral là, les coordonnées de Verdon Abonnement. Je peux le donner aussi, c'est verdon-abonnement@laposte.net.
Alors dans ce cas-là, Verdon sans S cette fois-ci, voilà, verdon-abonnement@laposte.net. D'accord, mais bon, on retrouvera sur le site de Fréquence Mistral les coordonnées, parce qu'il y a un site aussi, il y a un site pour la revue, un site internet qui s'appelle Verdon cette fois-ci au singulier comme la revue.com, et donc on peut trouver tout un tas d'informations sur la revue, comment s'abonner. Alors, 3 numéros par an. Et quel est le prix de la revue, Jean-Claude?
Alors, au numéro, c'est 13 euros.
13 euros.
Voilà, 13 euros.
Oui, mais je veux dire, c'est pas cher pour la taille
non,
de
non,
un
non.
livre. Voilà, oui,
non, c'est pas cher.
120
parce que
pages, parfois plus. Hein, le numéro est demain, il fait 132 pages.
Oui, justement, c'est pas cher. On tient à ce que ça soit pas cher. Oui. Bon, mais on est associatif, donc l'idée, c'est pas de faire du bénéfice. Et si on peut le faire à ce prix-là, et à cette qualité-là, c'est parce que justement,
il y a ces aides aussi.
Il y a ces aides qui nous permettent de réaliser ça.
Alors, est-ce qu'il y a une revue qu'on trouve aussi dans les librairies, dans certaines d'entre elles?
Oui, alors on a des librairies qui nous diffusent. Donc, il y en a à Digne, il y en a à Draguignan, il y en a à Moustier, il y a une librairie à Colmar-les-Alpes, il y a une librairie à Aix-en-Provence.
D'accord.
Donc, un petit peu, vous voyez, sur toute la région, comme on dit, dans les bonnes librairies. Mmh. Castellane aussi. Castellane également, bien sûr. C'est quand même... dans le Verdon, c'est un point central. Et la revue se retrouve aussi à Castellane.
D'accord. Donc, Et donc, mais l'idéal, c'est d'arriver à s'abonner pour avoir numéros. Oui. Trois numéros, c'est 30 euros plus le port. Hein.
Voilà.
36 euros.
36 euros. Oui. Non, 36 euros, je crois que c'est port compris.
Oui, port compris. Oui, 30 voilà. euros plus 6 euros de port. Voilà, 36 euros.
Ah, 36 oui. euros, voilà. Oui, oui. 36
c'est,
euros,
c'est
voilà.
moins cher qu'à l'unité, puisque ça ferait 39,
voilà.
si je calcule.
Oui, bien. Oui.
Bon, donc, et le dernier numéro s'appelle « Et demain ». Qu'est-ce qui va se passer pour la revue « Et demain », on l'a vu, vous allez continuer, vous avez déjà les thèmes. A priori, c'est un train qui roule, je veux dire, il n'y a pas de remise en cause de la revue.
Non, pas du tout, non, normalement.
Il y a plein d'idées.
Il y a plein d'idées, ce n'est pas les idées qui manquent. Si les soutiens continuent, on continuera, quoi. Hein. Alors, sur notre site, là, verdon.com, on peut trouver donc les sommaires, on peut trouver donc déjà se rendre compte de ce qu'il y a dans un numéro, et puis tous les éléments pour s'abonner ou pour acheter la revue. Il y a aussi de temps en temps un article. Oui. Il est même arrivé qu'on mette sur le site un article qu'on n'avait pas pu caser dans le numéro. D'accord. Parce que des fois, on a trop de matière et il faut donc se réduire. Donc,
mais il vous paraissait quand même important.
Il nous paraissait intéressant. Donc, oui. c'était dans le numéro sur Trace, oui. sur la guerre de 14-18. Mmh. Donc, il y a aussi des fois des articles qui ne sont pas écrits, mais qu'on peut trouver
sur le site. Il y a une matière. Alors, Verdon. Est-ce que aussi vous êtes ouvert il y a un site, des sollicitations, des idées, des gens qui disent on aimerait bien un jour qu'il y ait un numéro sur tel thème. Est-ce qu'il y a des demandes
oui,
comme ça
sûr.
Ou des gens qui disent moi, il y a un sujet que je connais bien, j'aimerais bien pouvoir en parler. Est-ce que ça arrive aussi?
Ah oui, ça, oui.
Des
ça,
demandes et des propositions.
Ça arrive, il y a des propositions. Moins qu'on le voudrait. On D'accord. en voudrait davantage. On fait appel aux contributeurs, on fait D'accord. appel aux idées. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup.
D'accord.
Et s'il y en avait plus, ça serait bien, parce que vraiment l'idée c'est que la diversité est une richesse et qu'il faut donc s'enrichir le plus possible de toutes les diversités.
Oui, mais peut-être que les gens disent bon, mais peut-être qu'ils sont pas ouverts, ils attendent pas qu'on leur demande ces choses. Mais là, bon, justement, c'était important d'en parler. Donc cette idée vraiment d'ouvrir, même s'il y a un comité de rédaction avec un certain nombre de membres, parce qu'il faut prendre des décisions puis faire le travail. Mais je veux dire, tout est ouvert, tout le monde peut apporter des idées et vous cherchez des contributeurs.
Tout à fait, oui.
Parfois sur des thèmes particuliers. Alors, est-ce que ça arrive que sur le site vous dites bon, on va traiter de tel sujet, si vous connaissez c'est quelque chose sur ce sujet, contactez-nous. Est-ce que ça arrive, ça ou...
En fait, on ne le met pas sur le site, mais on le met à la fin du numéro. On indique, par exemple, sur le numéro sur le cinéma, on indiquait les numéros 46, 47 et 48.
D'accord.
Donc
on a déjà les prochains thèmes et on peut très bien dire ben moi je connais ça, mon grand-père faisait ça, j'ai tel document.
Oui. Voilà. Donc dans le prochain numéro, on indiquera les thèmes de 2016 et on invitera les contributeurs, les gens à contribuer.
Oui, ben je lis ce qu'il y a sur la dernière page. Verdon parle du pays et des gens du Verdon tout en parlant du monde. Et en dessous, c'est marqué « Notre publication est une revue ouverte », c'est ce qu'on disait tout à l'heure. « Toute proposition d'article ou de thème à traiter sera examinée avec attention. Merci de nous faire part à notre adresse courriel ci-dessous. »
Voilà.
Donc effectivement, il y a une ouverture que vous ne trouvez pas suffisamment nourrie, il n'y a pas assez de propositions.
Ah oui, oui, oui.
Mais bon, à force d'en parler, ça viendra. Peut-être.
Oui, ça viendra, je pense, oui.
Et puis, s'il y a éventuellement des candidats pour faire partie du comité de rédaction, ils seront...
également,
toutes
oui.
Les candidatures sont examinées.
Oui. Il faut savoir que c'est un travail, quoi. Hein. Parce qu'on a eu des fois des candidats ou des gens qu'on était prêts à intégrer dans le comité de rédaction, mais ils ont participé à une ou deux réunions, et puis voyant la somme de travail que ça représentait, on ne les a plus revus.
Oui.
On a eu Bon, il faut lire chaque article, il faut les discuter, il faut argumenter, après dire son avis, oui, non, pourquoi, en partie oui, en partie non, pourquoi, etc. Donc c'est un gros travail.
C'est un engagement, quoi.
Un engagement dans la durée.
Oui. On va peut-être en rester là.
Oui, merci de votre accueil.
Merci pour être venu. On pourra reparler de la revue, hein. Il y a pas de problème. On reparlera de cette revue. On parle de livres, mais ça, c'est une revue, c'est aussi de l'écrit et c'est aussi un livre. Et celui-là particulièrement, la revue Verdon, c'est un livre. Merci Jean-Claude.
Voilà.
Merci à la revue Verdon qui nous enrichit trois fois par an de choses assez, assez belles. Et je dois avouer que dans ma bibliothèque, j'ai un rang entier parce que je dois voir à peu près tous les exemplaires de la revue depuis le début.
Alors, il faut bien les garder parce qu'il y en a qui sont collectors maintenant.
Oui, oui, il y en a
qui sont. Parce qu'il y a des numéros épuisés. Le premier numéro n'était pas à thème, était plus éclectique. Et c'est à partir du numéro 12 qu'on a choisi de se donner un thème. On s'est dit, on n'y arrivera jamais.
Oui, oui, c'était...
et on continue.
Ok, merci et à bientôt, Jean-Claude.
Voilà, que tout le monde se précipite dans les bonnes librairies pour demander Verdon.
Verdon ou bien
avec
sûr...
Avec un S.
Voilà.